Donc aujourd'hui, on va parler de Jésus, notre providence. Parce qu'il est notre providence. Il est donc la provision, si vous voulez, envoyée par Dieu lui-même. Et en parlant justement de la provision que Dieu nous donne, une chose que j'ai remarquée, c'est même chose chez les chrétiens que les non-croyants, c'est que le cœur humain est tel que, parfois, on est très reconnaissant, mais parfois pas, honnêtement. Parfois un peu ingrat. Et j'ai pensé justement à deux exemples dans ma vie. Côté positif, quand j'ai acheté ma première guitare électrique, là, en fait, j'ai beaucoup économisé, mais j'ai demandé à mes grands-parents, mes parents, enfin, tout le monde pour m'aider. Et quand, enfin, je l'ai obtenu, là, j'étais vraiment reconnaissant. J'ai perdu des heures et des heures, des mois entiers à jouer. Donc, bien apprécié. Alors que, côté négatif, ça fait pas très longtemps. Quand j'avais un portable qui buguait beaucoup, qui avait beaucoup de problèmes, qui faisait peut-être plus de problèmes que de solutions, justement, là aussi, il fallait que je mette à côté, que j'attends la fin de mon contrat surtout. Et donc, obtenu un portable qui marche. Je regarde, je fais deux, trois choses, j'ai mis dans la poche et puis pas du tout très reconnaissant pour ça. Pourtant, ça m'a beaucoup servi. Et puis, ça c'est le cœur humain, n'est-ce pas? On est comme ça, on est un peu, pas instable, mais on est porté sur ces deux réponses. Et justement, je crois que c'est ce que le Seigneur veut changer en nous. Alors, aujourd'hui, en Jean chapitre 5, nous commençons un nouveau chapitre avec une guérison. Une guérison est, par excellence, la providence de Dieu extraordinaire. C'est Dieu qui, extraordinairement, entre dans notre espace et pourvoit ce dont nous avons besoin. Et là, il le fera à un homme ingrat. C'est fort. Mais c'est tout ça qui va ouvrir un débat entre Jésus et les chefs religieux qu'on va voir dans les semaines à venir, qui serait très intéressant. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste regarder cette partie-là, la partie qui nous parle de ce problème humain. Donc, gratitude vis-à-vis de la providence. Tout commence avec Jésus qui guérit un homme. Nous sommes en Jean chapitre 5 et je vais lire les versets 1 à 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait périodiquement dans la piscine qui agitait l'eau, et c'est lui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle était sa maladie? Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Alors, deux, trois choses d'abord pour commencer. Selon les manuscrits les plus fiables, anciens, cette petite verset étrange, verset 4 avec l'ange et tout ça, en fait, ça ne se trouve pas dans les plus anciens, les plus fiables des manuscrits. D'où vient cela? Il y a plusieurs théories, mais ça ne serait pas notre souci aujourd'hui. Et je trouve, par contre, ce qui est intéressant, c'est l'image que la totalité nous donne. C'est que c'est un temps de fête. Et justement, pendant les prochains chapitres, donc 5, 6, 7, on va parler dans les périodes de fête. Et c'est important cela, parce que en Israël, le temps des fêtes, les fêtes de l'Éternel, sont des moments très forts pour la nation. En fait, c'est là où tout le monde se rassemble et les familles viennent pour adorer l'Éternel. Et aussi, c'est un temps familial, un temps religieux. C'est aussi un temps de joie. Donc, c'est à ces moments-là, ici, pour cette fête et les trois autres qu'on va voir, que Jésus se présente à la nation. C'est très stratégique. Et à chaque fois, il va leur donner un message spécifique qui correspond aux besoins les plus profonds de l'être humain. Alors, dans cette ambiance de fête, là, dans un endroit, certainement à l'écart, il y a une piscine où il y a beaucoup de malades. Et les gens, ils s'assemblent pour être guéris. Donc, plusieurs théories là encore. Mais ce que nous savons, et ce qui est intéressant, c'est que le texte ne dit pas que ces gens seront guéris ou qu'il y ait, mais c'est plutôt une croyance. On attend quelque chose qui puisse se passer quelque part. On est dans la superstition et quelque chose qui ressemble, si vous voulez, un peu à Lourdes aujourd'hui. Oui, peut-être il y a des gens qui se sont guéris par miracle, par grâce de Dieu, qui sait, mais l'ambiance totale, en fait, c'est superstition. Ce n'est pas porté vers Dieu, mais c'est porté sur un phénomène métaphysique qui puisse guérir quelqu'un. Et là, il y a une grosse différence entre les deux. Et c'est justement en cette ambiance-là que Jésus va entrer, et même, je dirais, casser ce qui ne va pas. En plus, il y a cet homme, il est malade pendant 38 ans. Et on souligne ceci parce que c'est une longue temps, attente, justement. Jésus, donc, il fait quelque chose que seulement lui peut faire. Verset 6. Jésus le vit couché. Et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit, veux-tu retrouver la santé? Alors, comment est-ce que Jésus connaissait que cet homme est malade depuis longtemps? Bon, Jésus, il a une trentaine d'années. C'est-à-dire que cet homme est malade plus longtemps que Jésus vit sur terre. Mais justement, que Jésus vit sur terre, Jésus préexiste cet homme, parce qu'il est la parole éternelle, il est l'éternel Dieu. Et donc, Jésus était là, parce qu'il est Dieu, là au moment où l'homme est tombé malade. Donc il savait toutes ces choses. Et encore, imaginez la scène, une piscine où il y a beaucoup de malades. Jésus vise celui-là. Il est le seul. Et il lui parle face à face et dit quelque chose d'étrange. « Veux-tu être guéri ?» Alors Jésus ne se moque pas de lui. C'est important à dire. Parce qu'on peut justement prendre ça d'un ton moqueur. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas de la moquerie. C'est même légitime. C'est légitime à cause du fait que parfois, il y a des gens qui profitent des handicaps, qui profitent de la maladie. Et attention, parce que c'est vraiment dur à dire et ça ne parle en aucun cas de la vaste majorité des gens qui sont et qui souffrent des maladies et des handicaps. Pourtant, nous savons tous qu'il y a, et nous le voyons malheureusement dans notre ville, qui profitent de certains handicaps pour, malheureusement, gagner de l'argent. Alors, c'est malheureux. Il y a aussi une autre chose, aussi. C'est que cet homme, ça fait quand même 38 ans qu'il est dans un lieu bizarre, quand même. Et qu'il attend une guérison. Et très souvent, quand on subit des choses pendant longtemps, ça devient notre réalité. Et on ne voit d'autre chose que cela. Et ce que Jésus lui invite à faire, c'est de sortir de cette réalité et connaître une meilleure réalité, la réalité de la grâce et de la liberté, une véritable guérison. Seulement une chose que lui, il peut faire. Et c'est à cela, donc, qu'il demande cette question. Verset 7, le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme trouva la santé et prit son lit et se mit à marcher. » Et là, il fait quelque chose qui est absolument merveilleux. Notez que l'homme, il est toujours dans cette prison qu'il a créée. Enfin, c'est pas lui qui l'a créé, mais dans lequel il s'enferme depuis tellement longtemps. Il ne voit d'autre solution que l'eau qui est agitée. C'est tout ce qu'il voit. Et Jésus, par contre, ne lui dit pas, est-ce que tu veux que je t'appelle approcher de l'eau? Est-ce que tu veux que je te jette dans l'eau? Non. Jésus lui demande guérison totale. Et là, je me suis dit que, ouais, effectivement, l'homme, il a limité Jésus dans sa propre perspective des choses. Mais est-ce que je ne fais pas la même chose moi-même? Est-ce que, justement, on ne limite pas Jésus à mes possibilités, à mes forces, à ce que moi je peux faire? Mais attends, Jésus n'est pas le plus grand parfait moi. Jésus est le grand je suis. Il est celui qui peut tout. Et justement, il peut guérir. Et regardez comment il a guéri. Il n'y a pas de thérapie. Il n'y a pas de rééducation physique. Non, c'est comme ça. Prends ton lit et marche. Et l'homme, il se lève. Il prend son lit. Vous voyez, ce n'est pas juste qu'il boite ou il est déséquilibré. Mais il a suffisamment de puissance, même pour prendre son lit, même si c'est juste une petite mat, enfin, qu'importe. Quand même, il a toutes ses capacités de le faire. Et nous voyons que ça, c'est la puissance de notre Dieu. Il peut tout. Et il peut tout avec une puissance tel que nous voyons dans ce passage. Il continue de faire. Et justement, ça, ce miracle, cette providence extraordinaire de Dieu est un signe qu'il est le Messie, tel qu'il est annoncé en Ésaïe, justement. Les boiteux marchent. Et là, dans un jour de fête, c'est vraiment comme s'il prenait le micro et dit haut et fort, je suis là, le Messie est là, il arrive. Parce que ce genre de choses n'arrive pas à moins que Dieu n'est là. Mais il y a un petit problème. Et le petit problème, c'est que Jésus a fait cela un jour de sabbat. Un jour de fête, tout le monde est d'accord, c'est bien, c'est cool, merci Jésus. Ah, un jour de sabbat, attention, parce que là, on est dans l'interprétation de la loi, on va voir ça dans une petite minute, et là, c'est pas tout à fait la même réaction qu'on attend. Et c'est justement pour cela que Jésus, je crois, en tant que Dieu, a fait tout cela par exprès, qu'il provoque même la question. Parce que, franchement, est-ce que Jésus a oublié quel jour c'était? Non, il est le Fils de Dieu. Comment vous voulez que Jésus, le Fils de Dieu, oublie le sabbat? Quand même, en tant que Dieu, le Fils, il était là le jour où Dieu s'est reposé, le septième jour, n'est-ce pas? Donc, il savait très, très bien quel jour c'était. Verset 10. C'était le sabbat ce jour-là. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri. C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton lit. Il leur répondit. C'est lui qui m'a rendu la santé, m'a dit. Prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent. Qui est l'homme qui t'a dit prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Bon, évidemment, Jésus, il a fait exprès. Mais cet homme, sa réaction est très intéressante. Parce qu'il prend son lit, il marche, il est un peu perdu. Peut-être lui, il a oublié que c'était le sabbat, qui sait. Mais face au chef religieux, là, il se fait, en fait, reprocher, même réprimander. Alors que c'était 38 ans qu'il attendait une guérison. Alors que même il y a 2 heures, il était toujours dans ce cas. Personne ne dit le moindre mot, et surtout ces chefs religieux. Ils sont les chefs religieux, ceux qui connaissent la loi, ceux qui connaissent qu'un homme ne peut pas être guéri comme ça si ce n'est la parole de Dieu, donc en marche. Et en plus, c'est eux qui devraient comprendre ces paroles d'Ésaïe que voilà, il y a un estropié qui marche. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Personne ne dit Dieu merci. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah ben, là, ils font le policier, ils sont les brigadiers, là. Et là, ils disent, ben, toi, qui t'a donné l'autorisation d'avoir ton lit et marcher le jour de sabbat? Vous voyez, c'est tout notre discours. C'est pas Dieu merci pour un homme guéri, c'est ben, qui t'a donné l'autorisation? Ne sais pas-tu que tu es en flagrant délit de la loi? C'est pas du tout. Et malheur à nous, les gens religieux, qui ne voit pas les choses comme on doit le voir. Justement, ça nous montre à quel point c'est facile de voir les choses de mauvais côté, d'avoir des fausses priorités, d'être tellement sur notre truc, notre je ne sais pas quoi, que nous oublions le véritable miracle que Dieu vient de faire. Un autre indice dans tout cela, c'est le fait que Jésus n'est pas reconnu. N'oubliez pas, Jésus n'est pas reconnu ni par l'homme, ni par les chefs religieux. Comment ça? Ben, tout simplement, c'est au début de son carrière. Et donc, il fait cela et puis disparaît. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas soutenir devant lui pour attendre les accolades. Hein. Jésus n'est pas ce genre de dire « Ah ben, non, merci. » Non, merci. Non, il disparaît. Il n'est pas là pour justement se faire louer. Mais pour rendre gloire au Père. Et c'est ça ce qu'on va voir plutôt plus tard. Il est la provision du Père. Il est justement la providence Dieu qui agit pour le bienfait de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cet homme? Est-ce qu'il est content? Notez que dans le texte, déjà, il n'a même pas loué Dieu. En Matthieu, Marc et Luc, quand il y a quelqu'un qui est guéri, tout de suite il saute, il loue Dieu. C'est entièrement absent. Verset 14. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as retrouvé la santé. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Alors ça, c'est fort. Il y a deux manières de le voir. La première, c'est Jésus savait, et ce n'est pas toujours le cas, mais il savait que l'homme est malade ou l'homme a été blessé ou il a été handicapé à cause d'un péché. C'est quelque chose qui arrive. Justement, même dans notre monde, par les gens qui, justement, sont dans leur orgueil, dans leur entêtement, font ce qu'ils savent qu'ils ne doivent pas faire et ils foncent et ils sont blessés ou parfois tombent malades. Il y a des conséquences et ça arrive parfois. Ça ne veut dire en aucun cas que toute maladie, tout handicap est dû à un péché spécifique. Ce n'est pas du tout ce que dit le texte. Mais il est possible que Jésus dit par rapport à cette maladie et cet homme que oui. Parce que là encore, il est Dieu. Et c'est un signe de sa divinité. Il est le seul capable de le faire. Seulement le juge peut juger. C'est pour ça que nous ne sommes pas appelés à juger, mais à aimer. Mais lui, le juge, peut dire justement, tu as fait ça, voilà les conséquences. Attention, répands-toi afin de ne pas tomber encore dans ce péché. Parce que là encore, nous voyons les traces. Il n'a pas loué Dieu et il n'a pas vraiment été concerné par Jésus non plus. Autre chose, et le texte nous permet de le dire entièrement et peut-être c'est même une combinaison des deux, c'est que l'homme, pendant 38 ans de sa vie, était prisonnier à sa maladie. C'est quelque chose d'affreux et c'est peut-être le pire, une des choses les pires de ce monde. Oui, mais s'il ne se répand pas, s'il ne se tourne pas vers Christ pour être sauvé, ce qui va lui arriver dans le jugement sera beaucoup pire de tout ce que ce monde puisse lui donner. Les deux sont parfaitement possibles dans l'interprétation. En fait, ce que nous voyons dans les deux cas, c'est Jésus, en tant que Dieu, qui lui met un grand avertissement qu'il doit entendre. Est-ce qu'il va obéir? Est-ce qu'il va recevoir cette parole? Verset 15. Cet homme s'en alla et dit aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait cela pendant le sabbat. Et là, les experts du grec du Nouveau Testament sont d'accord pour dire que ce que cet homme a fait, ce n'était pas de la naïveté, c'était de la lâcheté. Quoi ? La façon dont c'est écrit, mais deuxièmement, nous pouvons le voir dans le texte. En fait, il était déjà quitte vis-à-vis des chefs. Ils lui ont demandé une question, il a dit « je ne sais pas », fini. Mais là, par contre, il va les chercher et dire « il est là ». Et même quand il a parlé à Jésus et Jésus lui a averti, il ne s'est pas repenti. Dans toute l'histoire, il ne rend pas gloire à Dieu. Il ne se répand pas. Mais il trahit celui qui l'a guéri. Et là, nous sommes face à un bel exemple de le cœur humain et de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quoi? La grâce de Dieu, c'est la faveur imméritée. Personne, le jour où il serait présenté devant le Père, va dire « moi, je suis là parce que j'ai fait ça, parce que j'étais meilleur qu'un tel, parce que j'ai eu l'intelligence de choisir Dieu. » Non. Toute personne qui serait présentée devant le Père irréprochable va dire « je suis là parce que Jésus-Christ m'a sauvé, parce que je suis lavé, purifié par lui, parce qu'il m'a sanctifié. » Point final. Et ceci dit, Et c'est là où on touche vraiment ce qui est beau dans ce texte. Même si il y a ce côté un peu obscur et désagréable à avoir, le fait que Dieu fait pleuvoir sur les injustes que les justes nous montre à quel point son grâce est immense. La différence entre nous qui sommes en Christ et ceux qui ne le sont pas, c'est tout simplement ce qu'il a fait en nous. Nous avons reçu sa grâce. Rien d'autre. Et parce que nous l'avons reçu, justement, et c'est ça ce qui a changé notre vie. Et c'est pour cela, effectivement, que nous voyons cette belle image de sa grâce. Ensuite, les pharisiens vont le persécuter, vont le poursuivre. Jésus, et Jésus donc doit enseigner autre chose, donc Matthieu, Marc et Luc, les évangiles synoptiques, il doit leur enseigner que, attention, l'homme n'a pas été fait pour le sabbat a été fait pour l'homme, parce que Jésus est le maître du sabbat. C'est-à-dire que il est bon, important pour nous de se reposer. Il est nécessaire. En fait, celui qui ne se repose pas de ses travaux se rend moins productif, va se rendre malade, et il y a beaucoup d'autres problèmes autour. Ça montre même, pour le chrétien, un manque de foi. Celui qui ne s'arrête pas pour se reposer, en fait, il manque de foi, le foi suffisamment important pour dire que ce n'est pas moi qui dois tout faire. Non, je me repose. C'est à toi de prendre soin de moi. Il faut de la foi pour cela. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire. Mais ce n'est pas le sabbat qui nous sanctifie. C'est Jésus qui nous sanctifie. Jésus est donc notre sabbat. Parce que c'est lui qui a tout accompli. C'est lui qui a accompli la loi pour que nous puissions entrer dans ce qu'il a fait pour nous. Donc, on revient à cette question de gratitude vis-à-vis de la providence de Dieu. Nous qui sommes en Christ, est-ce que nous sommes portés vers la gratitude? Est-ce que nous nous réjouissons pour les choses qu'il fait pour nous? Même des choses aussi simples que une belle journée de dimanche ensoleillé. Enfin, il y a plein de choses, la santé, bien plus. Verset 17. Jésus leur répondit, « Mon Père travaille jusqu'à présent. Moi aussi, je travaille. » Et à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non parce qu'ils violaient le sabbat, mais parce qu'ils disaient que Dieu était son propre Père. Et se faisait ainsi lui-même égal à Dieu. Et c'est ça qui va lancer tout le débat qu'on va voir la semaine prochaine. Il ne laisse aucune ambiguïté. Il se proclame Dieu. Et là, dans un jour de fête, là où tout le monde est présent. Mais revenons sur cette question du sabbat, parce que là, nous touchons à quelque chose de très important entre ceux qui sont dans une vie religieuse et, en fait, ceux qui sont sauvés par la foi. Il y a une différence. La différence se voit dans ces hommes-là. En Romains chapitre 9, verset 30, Paul nous dit ceci. « Que dirons-nous donc? Les païens qui ne recherchaient pas la justice ont obtenu la justice. » La justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui recherchait une loi qui donne la justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël la cherchait non par la foi, mais qu'en provenant de ses œuvres. Ils se sont heurtés à la pierre d'achoppement. Cette pierre d'achoppement, c'est Jésus-Christ lui-même. Eux, ils ne savaient pas encore parce que Jésus n'était pas encore mort, mais il connaissait des choses sur la foi. Il connaissait des écritures comme, par exemple, ce n'est pas les sacrifices que je demande, mais enfin, que le juste vit par sa foi. Plein de choses dans l'Ancien Testament qu'il aurait pu justement diriger leur pensée vers le droit chemin de la foi. Mais ce qu'ils veulent, c'est de montrer qu'ils sont quelque chose, qu'ils peuvent lui-même, qu'eux, ils sont capables d'obtenir une justice à eux-mêmes et qui leur est propre. Mais là, c'est l'ultime exemple de l'ingratitude vis-à-vis de Dieu. Comment ça? Parce que c'est autrement dire, oui, Jésus, ce que tu as fait en accomplissant toute la loi, eh bien, la croix et tout, ok. Et moi, j'ai fait ça. Et le moment que ces deux mots, mais moi, cette justification, auto-justification, c'est là où on est chuté de la grâce. On est dans un autre registre. Et c'est justement anéantir la croix. C'est pour cela que c'est de l'ingratitude. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas l'accepter. Nous rejetons cela. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes des gens de grâce. Nous recevons la grâce, nous faisons grâce les uns aux autres. Et donc, pour notre histoire aujourd'hui, Dieu, dans sa providence, a envoyé Jésus guérir un homme ingrat. Quelque part, nous sommes tous l'homme ingrat. Et Dieu a fait ce changement en nous. Et maintenant, nous sommes à lui. Réjouissons-nous en lui. Remercions-le pour tout ce qu'il a fait. Reconnaissons sa providence. Et si, justement, il y a donc quelqu'un qui n'a pas encore mis sa foi en Christ, aujourd'hui, le jour du salut, aujourd'hui, prions. Père Céleste, merci pour Christ. Merci pour ce qu'il a fait pour nous. Cette grâce, son amour, sa vie. Ô Seigneur, nous prions que nous ne soyons plus ingrats, que nous ne manquons pas de nous réjouir avec toi pour toutes les grandes et les petites choses que tu fais sans cesse dans notre vie. Merci Seigneur. Comme nous sommes un peuple sauvé par la grâce, Seigneur, fais de nous un peuple qui donne grâce et qui répand ta grâce et qui parle de ta grâce. Et nous prions dans le nom de Jésus. Amen.